va accueillir comme il se doit Michel Lafarra. Michel, bonjour, bienvenue à Oudo Radio.
Bonjour Joël.
Alors c'est vrai qu'on va en parler de cette 9e planète qui a fait la une des médias, et qui de mieux que vous pour nous en parler. Mais juste avant, rappelez-nous Michel, hein, l'association Constellation et Galaxie, voilà, on ménage un petit peu le suspense, voilà, mais restez bien à l'écoute, Michel va tout nous dire sur l'existence ou pas de cette 9e planète. Alors Constellation et Galaxie,
c'est une petite association par la taille qui est située en Dordogne.
Je vous reprends, Michel,
Lucida,
grande association.
Par l'activité. Et notre principale activité, c'est justement un planétarium mobile, hein, c'est-à-dire c'est une structure gonflable qu'on peut venir installer dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées, un peu partout dans le nord de l'Aquitaine. On ne va pas jusque dans les Landes ou Biarritz, ça ferait un petit peu trop loin, mais toute la Dordogne, le nord de la Gironde et même une partie des départements voisins. Et accessoirement, à côté, on a d'autres activités dans le domaine de la culture scientifique, en particulier des expositions itinérantes en Dordogne dans les collèges et les lycées.
Voilà, puis on redonnera bien sûr le site internet où on peut le donner d'ores et déjà, hein, constellationgalaxie.org, pour avoir un petit peu plus d'infos. Alors chronique astro numéro 17, évidemment, l'actu, bien ça tombe tout seul. Hein.
Oui, ben, quand je préparais la chronique la semaine dernière, je trouvais justement qu'il n'y avait pas grand-chose dans l'actualité astro et je me demandais bien un peu de quoi on allait parler ce matin. Et en fait, tout le monde a entendu parler, je pense, de cette annonce que je qualifierais de tonitruante dans les médias, qui ont repris un article publié par une équipe d'astronomes américains. Alors, j'aime autant être clair dès le départ, je ne suis pas d'accord avec le terme « découverte ». On n'a pas découvert une nouvelle planète, parce que pour ça, il faudrait l'avoir vue dans un télescope, ou plus exactement sur une image, parce qu'aujourd'hui, les astronomes professionnels ne regardent plus dans les instruments. Hein, on fait des images avec des capteurs très sensibles. Mais on n'en est pas là, et il faudra sûrement attendre des mois, et je pense même peut-être des années, avant d'observer cette hypothétique 9e planète. En fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis les années 90, les astronomes s'intéressent aux corps du système solaire qui sont situés plus loin que Neptune, hein, la planète la plus éloignée du Soleil. On appelle ces objets des objets trans-neptuniens, puisqu'ils sont plus loin que Neptune. Et ça constitue une zone qu'on appelle la ceinture de Kuiper, qui renferme surtout beaucoup de petites comètes, mais aussi des objets nettement plus gros, comme Pluton, hein, qu'on considère aujourd'hui comme un objet trans-neptunien et qu'on appelle planète naine. Et c'est en étudiant les trajectoires de 6 de ces gros objets que l'équipe américaine, hein, en étudiant surtout leur inclinaison par rapport aux planètes et une certaine synchronisation de leur orbite, que les Américains, par simulation numérique, hein, c'est-à-dire des calculs sur ordinateur, ont semblé montrer qu'il pourrait y avoir une autre planète, un peu nettement plus loin d'ailleurs, hein, que Neptune. Mais c'est une hypothèse pour le moment, et en plus elle n'est pas très précise. Le même effet pourrait être dû à une planète plus ou moins grosse, suivant qu'elle est plus ou moins loin. Donc on n'a pas idée non plus de sa taille, hein. Dans les médias on a beaucoup parlé d'une géante gazeuse un peu comme Neptune, mais on n'en sait rien du tout. Et donc moi je dirais qu'on est très loin de la découverte d'une 9e planète ou de l'hypothétique planète X. Hein. Pendant plus d'un siècle on a cherché cette fameuse planète X et à chaque fois on croit l'avoir trouvée. Alors moi je profiterai de cette annonce qui a été largement médiatisée un peu pour s'interroger sur ce type d'annonce et surtout sur le fonctionnement de la recherche actuelle et des effets pervers de son financement. Hein. J'ai entendu lundi sur une radio nationale l'astronome français André Braïc qui en a parlé. Elle survient juste quand le Congrès américain doit débattre des budgets de la recherche publique américaine. Et bien sûr, celui de l'équipe, hein, donc c'est Mike Brown et son équipe qui ont fait cette annonce, a été approuvé. Comme par hasard, il dispose des bons instruments qui permettraient de chercher cette planète. Donc il y a quand même un peu un effet, disons, opportuniste dans cette annonce. En plus, c'est un peu amusant parce que c'est un peu comme un rachat de l'équipe de Mike Brown, car c'est à cause d'eux et d'une découverte qu'ils ont fait en 2005, hein, une planète naine qui est deux fois plus grosse que Pluton, qui s'appelle Eris, que la définition des planètes a été changée en 2006 et que du coup, Pluton a perdu son statut de planète. Donc, comme par hasard, c'est l'équipe qui a fait perdre une planète aux Américains, c'est la seule que les Américains avaient découverte, qui va peut-être les racheter en redécouvrant une nouvelle un jour. Moi, ce qui m'a étonné quand j'ai entendu cette annonce, c'est que la planète, si elle existe, hein, c'est toujours une hypothèse, n'ait pas été déjà observée, parce que la zone où elle doit se trouver est particulièrement surveillée par les télescopes. La façon dont les planètes se sont formées dans un disque de matière en rotation autour du Soleil fait que toutes les planètes orbitent pratiquement dans le même plan, qu'on appelle l'écliptique. Donc, vu de la Terre, c'est comme un grand ruban circulaire dans le ciel. Et comme il y a beaucoup d'astéroïdes aussi dans la même zone, c'est une zone que des télescopes photographient automatiquement en permanence pour essayer de découvrir un maximum d'astéroïdes, parce qu'on a toujours peur qu'il y en ait un qui vienne en collision avec la Terre. Donc, a priori, moi, je pouvais m'attendre à ce qu'une planète qui circule dans la même zone soit repérée depuis longtemps. En fait, c'est pas tout à fait aussi simple parce que si elle est vraiment très loin de nous, suivant sa taille, suivant sa luminosité, parce qu'il y a des objets transneptuniens qui sont très sombres, il se pourrait que seuls des très très grands télescopes puissent l'observer. Or, les télescopes qu'on utilise pour chercher les astéroïdes sont pas très grands. Il y a un autre facteur important, c'est sa vitesse de déplacement sur son orbite. On sait que plus une planète est éloignée du Soleil, plus elle se déplace lentement sur son orbite. Hein. C'est une des fameuses lois de Kepler sur le mouvement des planètes. Si on prend l'exemple de la Terre, elle effectue sa révolution autour du Soleil en un an. Mars, qui est plus loin, le fait en 2 ans à peu près. Alors que si on prend la planète la plus éloignée, Neptune, il lui faut quand même 165 ans pour faire un tour complet du Soleil. Pour certains objets transneptuniens, qui sont vraiment très lointains, ça peut aller jusqu'à plusieurs milliers d'années. Dans l'annonce américaine, on parle d'une planète qui pourrait avoir 10 fois la masse de la Terre, donc ça correspondrait à peu près à une petite géante gazeuse, si je peux dire, comme Uranus ou Neptune. Elle serait peut-être à 20, voire 50 fois plus éloignée que Neptune du Soleil. Et du coup, elle aurait une période de révolution qui pourrait être de 10 000 ans ou plus. Donc pour détecter le mouvement d'un corps aussi lent dans le ciel, il faudrait comparer des images prises à des mois d'intervalle, peut-être 6 mois, 1 an. Or, les systèmes qui recherchent les astéroïdes font des comparaisons de photos pour voir les objets qui bougent seulement sur quelques minutes ou quelques heures. Donc, je dirais aujourd'hui, avec ce qu'on sait de l'annonce qui a été faite, moi je pense que pour prouver vraiment l'existence de cette planète, il va falloir utiliser un gros télescope et il va falloir attendre des mois, voire des années, avant de réellement pouvoir observer le déplacement de cette planète par rapport au fond étoilé. Donc on n'y est pas encore tout à fait à la découverte.
Bon. Voilà, mais c'était bien d'avoir votre regard. Donc, on est un petit peu déçus, mais peut-être, je vais extrapoler sur la chronique, hein. S'il y a d'autres moyens, vous qui êtes passionnés, puis ça nous fait rêver, hein. Les étoiles et les planètes, peut-être que s'il y a des moyens pour la recherche, pour découvrir, d'avoir d'autres télescopes, hein. Le progrès galope tellement vite que c'est plutôt intéressant néanmoins, hein.
Alors, on s'était pas concerté avant la rubrique, mais hier, j'ai envoyé un mail au responsable de mon club d'astronomie, parce que je suis aussi un astronome amateur. Et je lui ai dit que peut-être il faudrait aller chercher dans les photos à intervalle de 6 mois, 1 an pour essayer de rechercher si on voit pas quelque chose qui bouge. Parce que ce qu'il faut savoir, ça peut étonner le grand public, hein, mais toutes les données astronomiques qui sont faites dans les recherches des grands observatoires sont publiques. Au bout de 1 an, hein, une mission qui demande des observations particulières a l'exclusivité des données des photos pendant 1 an. Au-delà d'un an, ça tombe dans le domaine public. Et on trouve des serveurs accessibles à tous où on peut aller récupérer des images, faire des comparaisons d'images, etc. Mais comme je l'ai dit, à mon avis, il faut un télescope plus gros que ceux qui sont utilisés pour arriver à voir cette planète si elle existe.
Donc plus de moyens.
Et je suis pas sûr que sur des photos qui existent déjà, parce que le comble, ce serait qu'elles soient déjà sur des photos mais qu'on l'ait pas encore repérée. Je suis pas sûr que sur les photos qui existent déjà, on pourrait y arriver. Sinon, on pourrait le faire chez soi devant son PC.
Bon, ben on va regarder. Merci pour l'indication. C'est vrai que le domaine public, dans d'autres domaines, la musique, c'est plus de 50 ans. Donc là, un an, c'est relativement bref.
Hein. Dans les sciences, et en particulier l'astronomie, il y a toujours une habitude de partage des données, de mise en commun des données, parce qu'en fait, des données, par exemple, des photos astronomiques faites pour une raison, peuvent très bien en fait être exploitées ensuite pour d'autres raisons. Et aujourd'hui, c'est assez paradoxal, mais il y a plus de la moitié des publications scientifiques qui sont faites dans des grandes revues, comme Nature, par exemple, qui sont faites sur des données anciennes ou dans un autre domaine comme l'archéologie, on va aller réanalyser des fossiles qu'on avait dans des tiroirs, dans des musées, depuis des dizaines d'années. C'est pas forcément des fouilles toutes récentes qui font des nouvelles publications. Une grande partie des nouvelles publications sont dues à la réétude de données qu'on avait déjà, en fait, aujourd'hui.
Très bien, voilà, fallait amener d'autres précisions. Allez, on va rester dans votre chronique, Michel, numéro 17, toujours, et continuer sur la découverte des planètes du système solaire, voilà, toujours sur l'actualité.
Voilà, avec ce thème d'actualité, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de rappeler aux auditeurs comment on avait progressivement découvert toutes ces planètes du système solaire. Alors, d'abord, si on veut faire un petit tableau du système solaire, il faut rappeler que le Soleil, c'est notre étoile, autour de laquelle orbitent 8 planètes. Il y en a 4 qui sont dites telluriques, c'est-à-dire elles sont rocheuses, comme la Terre, par exemple, et il y en a 4 qu'on appelle des géantes gazeuses, parce qu'elles sont beaucoup plus grandes, elles sont constituées à plus de 80% de gaz. En partant du Soleil, dans l'ordre des distances, on trouve d'abord les 4 telluriques, hein, dans l'ordre Mercure, Vénus, la Terre, puis Mars, et enfin les 4 géantes gazeuses, dans l'ordre Jupiter, Saturne, Uranus, et tout à la fin Neptune. Dans une chronique de décembre, je crois, pour fixer un peu les proportions entre les tailles et les distances, parce qu'on a du mal à se représenter ça, j'avais proposé un modèle réduit du système solaire où le Soleil serait ramené à la taille d'un ballon de basket, posé sur la ligne de but d'un terrain de foot. Sur cette maquette, les quatre planètes telluriques sont minuscules. C'est entre la bille qu'on a à la pointe d'un stylo et un grain de poivre pour les deux plus grosses qui seraient la Terre et Vénus. Elles seraient placées sur la première moitié du terrain de foot. La Terre est à peu près à mi-distance entre la ligne de but et la ligne médiane et Mars est pratiquement sur le rond central. Les géantes gazeuses les plus grosses, Jupiter et Saturne, seraient représentées par un gros grain de raisin, alors que Uranus et Neptune, plus petites, seraient représentées par des billes, mais on ne peut pas les placer à la bonne distance sur le terrain de foot, parce qu'en fait, elles sont beaucoup plus loin. La plus proche, Jupiter, est à 150 mètres du Soleil représenté par le ballon de basket, mais Neptune, elle serait carrément à 800 mètres. Donc voilà un peu le panorama.
Comment a-t-on découvert toutes ces planètes, Michel ?
Alors, il y en a pour lesquelles c'était évident, parce qu'on les voit l'œil nu dans le ciel. Comme je le rappelle de temps en temps dans mes chroniques mensuelles, je vais peut-être le faire tout à l'heure, on voit des planètes dans le ciel, il suffit de savoir où regarder. Donc, ce sont les telluriques, Mercure, Vénus et Mars, parce qu'à l'échelle du système solaire, avec le petit modèle que je viens de vous donner, vous comprenez qu'elles sont pas très loin de nous. Elles sont loin en kilomètres, mais à l'échelle du système, elles sont pas très loin. Et elles sont surtout très fortement éclairées par le Soleil, donc elles brillent fort dans le ciel. Les deux plus grandes géantes gazeuses, Jupiter et Saturne, sont beaucoup plus éloignées, elles sont beaucoup moins éclairées par le Soleil, vu la distance, mais comme elles sont énormes, elles nous renvoient suffisamment de lumière aussi pour qu'elles soient visibles dans le ciel à l'œil nu. Donc ces cinq planètes, on les connaît depuis l'Antiquité. On ne peut pas donner de date, parce que c'est tellement ancien que c'était avant l'invention de l'écriture, il n'y a pas de document. Ce qu'on peut dire de certains, c'est qu'il y a à peu près 5000 ans, on les connaissait déjà, puisqu'elles sont mentionnées sur des tablettes d'argile de l'époque mésopotamienne. Si on se rapproche un peu plus de nous, il y a à peu près 3000 ans avec la Grèce à l'époque antique, on trouve l'origine du mot planète, qui vient du grec planetes, qui veut dire astre errant. Car la principale caractéristique originale de ces astres dans le ciel, c'est qu'elles se déplacent par rapport aux étoiles. Et c'est ce qui leur a valu à l'époque d'être assimilés à des dieux. C'est de là que viennent leurs noms. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, ce sont des dieux du panthéon grec. Sauf que c'est les noms romains, parce que les romains ont repris le panthéon grec. Le vrai nom à l'origine, c'était le nom grec, c'est-à-dire Hermès, Aphrodite, Arès, Zeus et Cronos. À cette époque-là, la Terre ne fait pas partie des planètes, puisqu'on marche dessus, on cultive, on la voit pas dans le ciel comme les autres, on n'avait pas imaginé que ça puisse être une planète. Alors qu'à l'inverse, la Lune et le Soleil étaient considérés comme des planètes, parce qu'elles se déplaçaient aussi dans le ciel par rapport aux étoiles. Donc si on refait le compte, 5 planètes qu'on voit à l'œil nu, plus la Lune, plus le Soleil, ça fait 7 planètes dans le ciel à l'époque grecque. On imaginait qu'elles tournaient toutes autour de la Terre, qui était le centre fixe de tout l'univers, et même si le mouvement parfois complexe ne correspond pas toujours à ce système qui est un peu simple, on appelle ce modèle le modèle géocentrique, c'est-à-dire la Terre, géos en grec, au centre du système. Il a fallu pratiquement 2000 ans pour qu'on change notre vision avec le modèle qu'on appelle héliocentrique, le soleil, hélios en grec, au centre. Il s'est imposé au XVIe et XVIIe siècle avec les théories de Nicolas Copernic, en premier, qui a eu l'idée de placer le Soleil au centre du système avec les planètes qui orbitent autour de lui, y compris la Terre. Cette théorie a été confirmée par les lois de mouvement des planètes de Johannes Kepler, et ensuite les observations de Galileo Galilei, avec les premières lunettes astronomiques, c'était en Italie. Et au final, tout ça a pu s'expliquer grâce à la théorie de la gravitation de Isaac Newton au début du XVIIe. Si on récapitule, on a le Soleil au centre dans ce modèle, qui n'est plus du tout considéré comme une planète, il est différent, et 6 planètes, si on compte la Terre, qui orbitent autour de lui. La Lune orbite autour de la Terre, donc on lui donnera plus tard le nom de satellite, comme les 4 satellites que Galilée a pu observer autour de Jupiter. Il a fallu attendre que des télescopes plus puissants soient construits pour que les planètes invisibles à l'œil nu soient découvertes. Et c'est plutôt au XVIIIe et XIXe siècle que ça s'est produit. Dans la nuit du 13 au 14 mars 1781, l'astronome William Herschel a découvert Uranus, une 7e planète. Cette découverte a relancé la recherche d'une autre planète prédite par les mathématiques. Alors c'est dans les années 1750 que deux Allemands, un qui s'appelait Johann Daniel Titus et l'autre Johann Ehlert Bode, ont découvert séparément, chacun de leur côté, une loi qu'on appelle aujourd'hui la loi de Titus-Bode et qui décrit la position des planètes par rapport au Soleil. Alors si nos auditeurs veulent s'amuser à le faire, c'est simple, c'est une suite mathématique. On commence par 1, puis 3, et après on multiplie par 2 à chaque fois. Donc à partir de 3, on fait 6, 12, 24, etc. Si on ajoute 4, ça va donner 4, 7, 10, 16, etc. Je vous continue pas la série. Et si on divise par 10, ces valeurs qu'on a trouvées, ça donne 0,4, 0,7, 1, 1, 6, etc. La troisième valeur de 1, si on la prend comme étant la distance de la troisième planète par rapport au Soleil, c'est-à-dire la Terre, c'est à peu près 150 millions de kilomètres, on appelle ça dans le jargon l'unité astronomique, c'est avec ça qu'on mesure le système solaire. Et bien si avec cette mesure, on mesure la distance des autres planètes au Soleil, on va trouver 0,4 pour Mercure, 0,7 pour Vénus, 1,5 pour Mars, 5,2 pour Jupiter et 9,6 pour Saturne, et ça tombe sur les nombres de la série de Titus-Bode, hein, qui sont 0,4, 0,7, 1, 1, 6, 5, 2 et 10. Sauf que, en faisant cette énumération, j'ai sauté une valeur. Il y a une valeur de 2,8 dans la loi de Titus-Bode, mais on considère ça comme une curiosité mathématique, parce qu'il n'y avait aucune explication pourquoi ça correspondait aux distances des planètes. Jusqu'à ce qu'on découvre Uranus, parce qu'avec sa distance de 19,6 unités astronomiques, elle tombe juste sur le nombre suivant de la série. Donc à partir de là, on s'est dit que la loi de Titus-Bode devait correspondre à une vraie réalité physique, même si on la comprenait pas. Hein. Parfois, dans la science, on fait des découvertes comme ça, sans avoir l'explication du phénomène. Mais on découvre un processus mathématique. Et du coup, on s'est mis à chercher la fameuse planète manquante, qui correspondrait à 2,8, donc entre Mars et Jupiter. Et j'ai l'habitude de dire, en astronomie, quand on cherche, on trouve. Et c'est ce qui s'est produit. Le 1er janvier 1801, l'astronome italien Giuseppe Piazzi a découvert la planète Cérès. Hein, elle est petite, hein, elle fait 1000 km de diamètre, c'est-à-dire qu'elle est trois fois plus petite que la Lune. Hein, c'est quand même un tout petit objet. Mais en 1802, on découvre ensuite Pallas, en 1804, Juno, et en 1807, Vesta. Et du coup, ça faisait 4 planètes de plus, on était à 11 planètes dans le système solaire.
Mais ce ne sont pas des planètes, Michel.
Non, aujourd'hui, on les appelle plus des planètes. Mais à l'époque, on croyait que c'était des planètes. Et avec la découverte de Neptune, hein, qui est le chapitre suivant de ma chronique, on arrivera jusqu'à 12 planètes dans le système solaire, si on les compte. Comme on a fini par constater qu'il n'y avait pas une planète à l'emplacement prévu par la loi de Titus-Bode entre Mars et Jupiter, mais des dizaines, on a décidé de les rétrograder et on les a appelés des astéroïdes. Parce qu'ils correspondent à des... Ils ressemblent, quand on les observe, à des astres, c'est-à-dire des points lumineux dans le ciel, comme les étoiles, sauf qu'ils se déplacent dans le ciel. Alors aujourd'hui, on en connaît plus de 450 000. Hein. Alors bien sûr, ils ne sont pas tous gros comme Cérès, hein. La plupart ne font que quelques kilomètres. Et la découverte de Neptune, dont je vais parler maintenant, a définitivement tordu le cou à la loi de Titus-Bode, parce que sa distance au Soleil de 30,1 unités astronomiques ne correspond pas du tout à la suite de la série. Donc c'était vraiment un hasard que ça fonctionne bien jusque-là. Par contre, la découverte de Neptune est assez étonnante, car un peu comme cette fameuse neuvième planète dont on a parlé tout à l'heure, on l'aurait prédite par les calculs avant de la découvrir. Alors, faut faire un petit détour par la physique pour comprendre comment ça peut fonctionner. Depuis Newton, on sait que c'est la gravité qui oblige les planètes à orbiter autour du Soleil. L'énorme masse du Soleil attire les planètes à lui, mais elles n'y tombent pas parce que leur vitesse est suffisante pour qu'elles poursuivent une trajectoire elliptique, hein, qui est en réalité presque circulaire. Alors, c'est une façon simplifiée de voir le système, car en réalité, tous les corps exercent des attractions mutuelles les uns sur les autres. Et par exemple, une grande planète comme Jupiter modifie un peu la trajectoire d'une petite planète comme la Terre. On peut facilement comprendre que quand la Terre passe entre le Soleil et Jupiter, Jupiter la tire un peu vers lui et l'éloigne un petit peu du Soleil. Alors, si on prend tout en compte, les attractions, si je peux dire, les influences des planètes les unes sur les autres, les phénomènes sont très compliqués. Et on ne peut le voir que par des calculs, hein, des simulations numériques. Et une de ces simulations qui a été faite à l'observatoire de Nice, donc on l'appelle le modèle de Nice, semble montrer que les planètes n'étaient pas à l'origine aux emplacements qu'on leur connaît aujourd'hui. Alors le plus spectaculaire, c'est Uranus et Neptune, parce que le modèle de Nice prévoit qu'elles étaient dans la position inverse par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, Neptune était plus près, au début du système solaire, était plus près qu'Uranus du Soleil, alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse.
On peut revenir à la découverte de Neptune ?
Voilà, oui, parce que je suis un peu parti dans le modèle de Nice. Alors, c'est en observant l'orbite d'Uranus sur plusieurs années, mais il faut bien comprendre que c'est une toute petite portion de son orbite, hein, parce qu'elle fait le tour du Soleil en 84 ans, donc sur quelques années, on voit qu'une toute petite partie de son déplacement. On s'est aperçu qu'elle semblait légèrement perturbée par une autre planète qui serait donc située un peu plus loin. Et en 1839, l'astronome français Urbain Le Verrier, hein, Cocorico, au prix d'énormes calculs manuels, hein, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, même pas de calculatrice, hein, donc c'était des calculs énormes qu'il fallait faire, arrive à prédire l'orbite de Neptune, et sa position. Et quelques années plus tard, c'est le 23 septembre 1846, un astronome allemand appelé Johann Gottfried Gall a découvert la planète à moins de 1 degré de la position indiquée par Le Verrier, ce qui était quand même une précision étonnante. Et c'est la première fois qu'on prédisait l'existence d'une planète avant de pouvoir l'observer. Donc si on fait le compte avec Neptune, qui a été découverte par Gall, et les 4 astéroïdes qu'on avait cru planète, mais qu'on a ramené au statut d'astéroïde, on était à 8 planètes après la découverte de Neptune. Mais cette découverte encourageait les astronomes à chercher encore d'autres planètes en cherchant des perturbations dans les orbites de celles qu'on connaissait. Et c'est la fameuse planète X ou 9e planète qu'on a toujours recherchée. Or, la plupart du temps, il y a plein de théories bizarres, mais la plupart du temps, on essayait de la chercher soit entre le Soleil et Mercure, donc des petites perturbations de l'orbite de Mercure, soit encore plus loin que Neptune, puisqu'on voit qu'on a découvert les planètes de plus en plus loin. Et comme je disais tout à l'heure, quand on cherche en astronomie, on trouve. Et en 1930, l'Américain Clade William Tombaugh, en comparant des milliers de photos, il a fait un travail de fourmi, là, a découvert la petite Pluton, qui a 39 unités astronomiques et qui orbite autour du Soleil en presque 250 ans. Même si déjà à l'époque, les astronomes la trouvaient un peu bizarre, parce qu'elle est très petite, et son orbite est très allongée, contrairement aux autres planètes, elle est très inclinée par rapport à l'écliptique, on a quand même considéré que Pluton était sans doute la 9e planète du système solaire. Alors ce modèle à 9 planètes a duré pratiquement 75 ans, mais comme je le disais tout à l'heure, dans les années 90, les astronomes ont commencé à s'intéresser à nouveau au corps du système solaire situé au-delà de Neptune. Et bien sûr, on a trouvé. En 2000, on a trouvé un objet qui s'appelle Varuna, en 2003, Sedna. Jusque-là, tout allait bien, mais en 2005, la fameuse équipe de Mike Brown a trouvé Eris, qui était 2 fois plus grosse que Pluton. Donc au début, on les a considérés un peu comme des nouvelles planètes, mais la multiplication de ces découvertes a fait qu'on les a rétrogradées, un peu comme on avait fait pour les astéroïdes au XIXe siècle. Et on les appelle, le terme scientifique, des objets transneptuniens, parce qu'on a défini d'une façon plus précise ce que devait être une véritable planète, et ces objets, y compris Pluton, ne correspondaient plus. Et c'est comme ça que Pluton est passé du statut de planète à objet transneptunien, et on est revenu à un système de 8 planètes. Sauf que pour les Américains, qui étaient un peu chagrinés quand même par la rétrogradation, si je peux dire, de Pluton, c'est la seule qu'ils avaient trouvée, on a créé une catégorie bizarre qu'on appelle, enfin moi je trouve bizarre, qu'on appelle planète naine pour Pluton. Et du coup, d'autres objets transneptuniens assez gros ou les gros astéroïdes qui sont sphériques comme Cérès ou Pallas sont redevenus des planètes naines. Alors l'histoire, visiblement, ne s'arrêtera pas là, ce qui est toujours le cas en science, il n'y a rien de définitif, on finit toujours par mettre un peu en cause ce qu'on croyait être des certitudes. Donc l'équipe américaine qui a découvert Eris annonce maintenant que peut-être il y aura une 9e planète, donc à suivre. Quoi.
Voilà, vous en avez parlé de cette hypothétique 9e planète. Allez, dernière partie de votre chronique, le ciel du mois.
Oui, alors en février, on a plein cœur de l'hiver, donc c'est le ciel de la saison de l'hiver qu'on voit bien installé en début nuit. Orion, qui est la belle constellation à silhouette humaine, est au plus haut dans le ciel, donc plein sud, à peu près vers 22h en ce moment, entouré des autres constellations importantes autour de lui. Donc si on prend dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on a le taureau, le cocher, les gémeaux, le petit et le grand chien. Et comme je l'avais dit lors des dernières chroniques, les étoiles les plus brillantes de toutes ces constellations semblent former comme un grand G, la lettre G dans le ciel. Mais comme chaque mois, c'est difficile de montrer des cartes à la radio, donc je préfère renvoyer les auditeurs sur notre site web où ils trouveront les cartes du ciel. Donc je vais rappeler que c'est www.constellationsetgalaxies.org. Il y a différentes rubriques, dont une astronomie, dans laquelle on trouve le ciel du mois et donc les cartes des constellations le soir.
Allez, toujours dans le cas du ciel du mois, les planètes.
Alors, comme ces derniers mois, les planètes sont plutôt observables en deuxième moitié de nuit. La plus brillante des planètes dans le ciel, c'est Vénus, mais elle a pratiquement disparu du ciel à la mi-janvier, car elle est de plus en plus proche du Soleil. Donc, on peut encore aujourd'hui l'apercevoir, mais assez faiblement dans les lueurs de l'aube. La vedette actuellement des planètes dans le ciel, c'est Jupiter, qui est la plus brillante, qui se lève vers 21h30 en ce moment. À la fin du mois de février, ce sera 19h30, donc elle est levée dès le coucher du soleil, pratiquement à la fin du mois. Vers 2h du matin, en ce moment, il y a Mars qui se lève ensuite, et Saturne vers 4h30, ce sera 3h à la fin du mois. Alors j'ai essayé de faire un petit schéma. Si on observe le ciel vers 6h du matin, en ce moment, où il fait encore bien nuit, Jupiter est très brillante et haute dans le ciel, à peu près du côté du sud-ouest. Mars est reconnaissable à sa couleur qui est légèrement orangée. Elle est à peu près à mi-chemin entre Jupiter et l'horizon est. Et Saturne, qui elle est légèrement jaunâtre, sera à mi-chemin entre Mars et l'horizon. Au fur et à mesure du mois, Jupiter sera de plus en plus décalé vers l'ouest et Mars aura tendance à se rapprocher progressivement de Saturne, qui monte très très lentement jour après jour. Et un petit point que j'avais signalé en décembre et en janvier, il y a toujours une petite comète observable aux jumelles dans le ciel, dans un ciel bien noir bien sûr, on ne peut pas la voir à l'œil nu, elle est trop faible. Elle est montée en janvier le long de la Grande Ourse, ce qui fait qu'elle est tellement dans le ciel maintenant qu'on peut la voir toute la nuit, c'est-à-dire elle se couche plus. Hein. Pendant toute la nuit, elle est visible dans le ciel. Par contre, c'est difficile de la trouver puisqu'elle change de place tous les jours. Et là aussi, j'invite les auditeurs à aller sur le site web puisque j'ai placé une carte où on a la position jour après jour.
Allez, on reste dans l'actu et la dernière partie, les éphémérides.
Oui, alors ce mois-ci, il n'y a pas de phénomène particulier. Dans les mois prochains, on a commencé dans mon club astro à faire un peu le planning de toutes les phénomènes astronomiques qui ont eu lieu cette année, mais j'en parlerai dans les prochaines chroniques. Ce mois-ci, il n'y a rien de bien marquant, à part, comme d'habitude, le rapprochement de la Lune avec les planètes. Donc ce soir, mais je crains que malheureusement personne puisse le voir vu la météo, la grosse Lune sera près de Jupiter. Lundi 1er février, le premier quartier de Lune sera près de Mars dans le ciel du matin, donc après 2h du matin. Le jeudi 4, ce sera un croissant de Lune qui sera près de Saturne, là aussi le matin après 4h30, hein, le temps que tout ça se lève. Et le samedi 6, il y aura un très fin croissant qui sera près de Vénus et de Mercure, mais ça formera un joli triangle dans le ciel, mais je pense que ce sera assez difficile à observer parce que ce sera dans les lueurs de l'aube, hein, après 7h du matin, donc le ciel est déjà bien éclairci à cette heure-là. Et tout cet ensemble sera très bas sur l'horizon est, donc il faut vraiment avoir un horizon complètement dégagé pour pouvoir le voir. Et de nouveau, à la fin du mois de février, le mercredi 24, la grosse lune ronde, qui sera presque pleine, sera à nouveau près de Jupiter pendant toute la nuit.
Merci Michel pour cette chronique numéro 17, mais on va pas partir comme cela, hein. On se voit déjà le mois prochain. Donc dans l'actualité, qu'est-ce que vous allez aborder, même là si vous avez donné quelques infos hein, sur les éphémérides notamment.
Ben là j'avais pensé,
la brûle pour point comme cela.
S'il n'y avait pas eu cette actu qui nous a tombé dessus il y a quelques jours,
soyons fous. Hein.
Non je crois pas, c'est un peu trop tôt là. Non je pensais revenir sur les étoiles et en particulier un sujet qu'on n'a jamais abordé dans nos chroniques. C'est comment une étoile se forme, comment elle fonctionne pendant des millions ou des milliards d'années et comment en fait sa vie se termine. C'est ce qui permet de voir que les étoiles ne sont pas éternelles et un petit peu comment tout ça fonctionne. Dans les mois qui viennent, alors je ne sais pas, fin février, ce sera peut-être un peu trop tôt, je reviendrai sur Mars. Hein, j'ai parlé tout à l'heure du mouvement des planètes qui n'est pas aussi simple qu'on semble croire dans le ciel et ça se voit particulièrement bien avec Mars. Avec une espèce de boucle qu'elle va faire dans le ciel. Et ça devrait commencer dans quelques semaines, je pense.
Bien, ça fait encore de la matière, hein, si je puis dire.
Oh ben c'est inépuisable, l'astronomie.
Mais bien sûr, et puis voilà, ce sont des domaines qui nous font tous rêver. Et puis vous, qui êtes plus que... Vous êtes un amateur éclairé avec le Club Astro et un professionnel avec Constellations et Galaxies. Alors on va rappeler, hein, bien sûr, l'association constellationsetgalaxies.org. C'est bien détaillé, hein, d'ailleurs, si on veut aller chercher de l'info.
Oui, alors pour les enseignants qui pourraient nous écouter, ou même d'autres structures, hein, on ne va pas que dans les écoles. Il arrive qu'on aille dans des centres de loisirs, des centres de vacances.
C'est une belle idée, hein, d'ailleurs, ouais. Pour les centres de loisirs, hein, par exemple. Hein.
Voilà.
Parce qu'on est tous fascinés. Et puis,
en général, on fait le plein. Hein, quand on prévoit une soirée d'astronomie, il n'y a pas de souci. Tout le monde est fasciné par le ciel. Les hommes sont fascinés par le ciel depuis des millénaires, en fait.
Dans les étoiles, les pieds sur Terre, voilà. Le plus souvent possible.
Donc, sur l'onglet Planétarium, on va trouver toutes les infos, quelle place il faut. D'ailleurs, ce matin, j'ai encore visité un local pour voir si c'était assez grand pour pouvoir le mettre.
Bon, ça, c'est grand d'ailleurs.
Oui, c'est l'hôtel du département, donc il y a quand même un petit peu de place.
Voilà, le conseil départemental.
Voilà, c'est plutôt des contraintes ensuite de sécurité qu'on a. Il ne faut pas se mettre devant des issues de secours, etc. Il faut quand même aller vérifier sur place ce qu'on va faire. Donc on va trouver aussi bien sûr les tarifs parce que malheureusement c'est pas gratuit et un petit peu le contenu des séances, sachant bien qu'à chaque fois on discute avec les enseignants parce qu'ils peuvent avoir envie de traiter d'un sujet particulier
ou
un peu moins d'un autre pour avoir
donc
un peu plus de temps.
Donc ça c'est en harmonie bien sûr avec vos conseils à viser.
Voilà et ensuite sur la partie exposition ça concerne que la Dordogne donc je vais pas insister ici. Et la partie astronomie où on parle du ciel du mois, les éphémérides un peu plus détaillées que ce que je fais là, et le lever du soleil, les phases de la lune, etc. Enfin, tout ce qui est classique sur une page qui parle du ciel pendant un mois.
Très bien. En tout cas, encore un grand merci, hein, Michel, hein, pour cette présentation, ce gros travail, hein, parce que Vous avez beau être passionné, c'est quand même du travail de préparer ces chroniques. On en est particulièrement ravis. Donc rendez-vous le mois prochain, constellation-galaxie.org. On mettra quelques infos également sur le Facebook de la radio. Puis n'hésitez pas, hein, auditrices, auditeurs, hein, si vous avez quelques questions à poser à Michel, on transmettra. N'attendez pas la veille, bien sûr, de la chronique. Allez, merci Michel. Rendez-vous le mois prochain, hein, en ce qui nous concerne.
Voilà. Dernier mercredi du mois, comme d'habitude.
Voilà, très bien. Allez, encore un grand merci à